Je voudrais partager avec vous quelques réflexions suscitées par l'exposition de Raymond Médilis, de formidables machines arrivées, que vous pouvez voir actuellement dans la nef de la Fondation Clément. Ce sont des réflexions sur les pratiques picturales d'aujourd'hui à la Martinique. Si vous consultez la page « Découvrir les expositions » du site de la Fondation, vous noterez, comme moi, la diversité des pratiques artistiques contemporaines et le nombre limité d'expositions centrées uniquement sur la peinture au sens strict du terme, à l'exclusion de toutes autres formes artistiques. Nous examinerons donc ensemble quelques créations picturales du paysage artistique martiniquais, ainsi que quelques-unes de leurs particularités. Alors, est-il juste de dire que la peinture, les tableaux, se font plus rares sur les simèzes au profit de nouvelles formes comme l'installation, la photographie plasticienne, la performance? Il est vrai que même dans un espace géographique élargi à l'ensemble du monde, l'idée de la mort de la peinture est un thème récurrent. Au début du XXe siècle, la succession des avant-gardes a pu faire croire à la disparition de la peinture. À partir des années 60, elle se fait en effet plus rare dans les espaces d'exposition et l'idée de la mort de la peinture renaît et devient un sujet de débat fréquent de la critique d'art des années 80 et 90, comme le montre l'exemple de la première diapositive. Déjà en 1839, à la diffusion des premiers daguerréotypes, le peintre Paul Delaroche déclarait « À partir d'aujourd'hui, la peinture est morte. » En 1862, Ingres et 26 autres artistes signent une protestation contre l'assimilation de la photographie à l'art. La suite de l'histoire a démontré que la photographie n'a pas éliminé la peinture, mais que peinture et photographie ont développé un dialogue fécond et divers. Mais ceci est un autre sujet. Récemment, c'est l'ouverture du Centre d'exposition numérique immersif, l'Atelier des Lumières, qui a fait débat. Est-ce le futur ou la fin de l'art, titré ArtNet? Alors, l'Atelier des Lumières est un centre d'art numérique qui a installé ses 140 projecteurs et ses 50 haut-parleurs dans les 3 300 m² d'une ancienne fonderie de la rue Saint-Maur à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous y vivrez une expérience inattendue, une immersion visuelle et sonore dans l'univers artistique de la sécession viennoise et de ses héritiers. C'est un divertissement, c'est festif, ludique, spectaculaire, monumental. Des œuvres picturales classiques ont été remixées, mises en mouvement, transformées en projections sensorielles grand format et diffusées en continu. Zoom et fondu enchaîné se succèdent du sol au plafond et simultanément sur tous les murs et les structures architecturales de la fonderie. C'est un dialogue entre la peinture, l'architecture, l'image en mouvement, la musique. Ce nouveau mode de consommation de l'art est parfois vécu comme une menace pour la peinture et le tableau. Maintenant, arrêtons-nous brièvement sur quelques étapes de l'évolution de la peinture jusqu'à sa dissolution partielle à travers des exemples européens ou américains avant d'aborder son cheminement dans le contexte martiniquais. Vous avez pour commencer en 1910 l'abstraction et l'abandon de la représentation avec des artistes comme Kandinsky, Mondrian, Kupka, Klee, Delaunay. J'emprunte ici un exemple au suprématisme, le carré blanc sur fond blanc de Casimir Malevitch de 1918. C'est un geste de réduction et de simplification radicale qui vise le degré zéro de la forme au-delà du sensible. En 1913, vous avez Marcel Duchamp et son premier ready-made, roue de bicyclette. Alors, un ready-made est un objet ou un ensemble d'objets sans aucune élaboration manuelle de l'artiste, élevé au rang d'objet d'art par son seul choix. L'idée l'emporte sur la forme. En 1915, vous avez le mouvement Dada ou le dadaïsme, qui est un mouvement intellectuel et littéraire et artistique du début du XXe siècle, qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. En 1951, vous avez Rauschenberg et ses white paintings. À ce sujet, je souhaite vous raconter une petite anecdote. Rauschenberg était invité par un musée de Stockholm a exposé ses toiles. Il a tout simplement suggéré au musée de créer des châssis des mêmes dimensions que ses œuvres, de les peindre en blanc au rouleau de peintre en bâtiment et de les exposer et ainsi d'éviter le transport des œuvres. En effet, Rauschenberg peint ses toiles au rouleau de peintre en bâtiment. Vous avez un autre monochrome en 1955 avec Yves Klein qui induit une nouvelle définition de la peinture. C'est une rupture radicale. En quête d'émotion absolue, les monochromes tendent vers une dématérialisation de la peinture. Il n'y a plus de figuration. Le tableau est vide de tout signifié. En 1959, vous avez le Happening d'Alain Kaprow. Alors, un des composants principaux du happening, c'est l'implication du spectateur pour ajouter un élément de hasard. Il y a aussi le concept de l'éphémère qui est extrêmement important. Dans les années 60, vous avez encore le mouvement Fluxus, qui est un mouvement difficile à définir. Le but avoué de Fluxus est de supprimer toute frontière entre l'art et la vie. Pour Fluxus, tout est art. Vous avez ici l'exemple d'une œuvre de Ben, qui s'appelle Le Magasin, de 1958. En 1960, Antaï va systématiser le pliage, c'est-à-dire que la toile est pliée, froissée, nouée, elle est trempée dans la peinture, puis dépliée. La couleur s'est déposée de façon discontinue, elle apparaît en éclats répartis à travers l'espace de la toile, alors que les parties nouées restent non teintées en réserve. 1961, un nouvel exemple d'Yves Klein qui s'appelle Cosmogonie. Ce sont des toiles qu'Yves Klein plaçait sur le toit de sa voiture pour faire plusieurs centaines de kilomètres afin que la toile s'imprègne des traces du vent et de la pluie. Un pas de plus vers la mécanisation de la création avec Andy Warhol en 1963 qui utilise la sérigraphie et donc vous avez là un rejet de l'expressivité et de l'intention de l'artiste, un rejet de son geste manuel. Enfin, en 1967, BMPT, B pour Buren, M pour Mosset, P pour Parmentier, T pour Toroni, c'est un exemple de degré zéro de la peinture. Ces quatre jeunes étudiants à la sortie des écoles d'art ont travaillé ensemble pendant une année avant de se séparer et pendant cette année 67, ils ont proposé quatre manifestations. Celle-ci est la troisième. Elle se tient au Musée des Arts Décoratifs et ils exposent chacun une toile carrée de 2,50 m de côté. Alors, c'est une réaction contre la subjectivité impressionniste de l'art, contre l'illusionnisme, contre l'imaginaire, contre la sensibilité de la peinture. Ils recherchent donc le degré zéro de la peinture et cherche à réduire l'œuvre à sa matérialité pure. Alors, tous ces exemples, pour vous montrer l'évolution des directions différentes de l'art, allant toujours vers une dissolution de la peinture, un abandon du geste traditionnel du peintre, un recours moindre à sa sensibilité et à son expressivité. Mais la peinture ne disparaît pas, elle n'est plus au premier plan, elle évolue, elle change de fonction, elle côtoie de nouvelles formes d'art. Et on évoque même, on peut le dire, le retour de la peinture dans les années 80 avec des mouvements comme le ban painting, la trans-avant-garde, le néo-expressionnisme, la figuration libre. La peinture, qui était autrefois considérée comme une pratique noble, est devenue un médium comme les autres, qui côtoie la sculpture, la photo, l'installation. Aujourd'hui, de nombreux artistes travaillent à la frontière entre ces disciplines et associent donc vidéo, peinture et installation. Mais revenons à notre thématique, c'est-à-dire la place et les particularités de la peinture, aujourd'hui à la Martinique. Alors, en Martinique, vous le savez, il y a des installateurs, des performeurs, des artistes qui recyclent des objets, et vous ne manquerez pas de les reconnaître. Ici, Ernest Breuler, lors d'une exposition à la Fondation Clément. Julie Bessard. Christian Bertin à la Biennale de Liverpool en 2010, où il a présenté une performance appelée Cinobol. Henri Tolio, Abdafai. Le recyclage d'objets avec Thierry Jarin. Christian Bertin de nouveau. Et Ernest Breuler. Alors, qu'est-ce que peindre? Peindre, nous dit Vasari, qui est un architecte, un peintre, un collectionneur, un inventeur de l'histoire de l'art au XVIe siècle, nous dit « Une peinture est une surface plane couverte de zones colorées. Peindre, ce serait donc recouvrir une surface de pigments. » Alors, comment la peinture est-elle pratiquée aujourd'hui en Martinique? Dans une perspective historique, je crois que l'on peut dire que Alexandre Bertrand pratique une peinture académique avec des outils traditionnels, couteau et brosse, alors que Coco René Corail amorce déjà une expérimentation plus large. Nous avons ici quelques exemples, un détail d'une œuvre qui s'appelle Saint-Pierre, que vous pouvez d'ailleurs voir dans la salle à manger de la grande maison de la Fondation, où il a collé sur sa toile des petits morceaux de faïence récupérés sur la plage de Saint-Pierre. Vous avez également un exemple de sa fameuse peinture avec saupoudrage de terre, de la poterie, de sable et l'intervention du feu. Encore un détail d'une autre œuvre, où il tire parti des réactions chimiques des peintures industrielles. Alors René Corail disait « Je ne peins pas avec de la peinture classique. Il faut dire une chose, je suis d'abord un potier, un céramiste. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cette technique-là, avec la peinture acrylique de la Seigneurie que j'ai appliquée en relief. Ensuite, j'ai une aspersion de vernis, saupoudrage de sable, de poussière de terre, de la poterie, et puis le feu. Ça monte à 2 ou 3 mètres de haut. Pour brûler, j'asperge de white spirit, et c'est le white spirit qui est le danger public dans l'affaire. » Vous allez maintenant voir René Corail de travail. Voilà, alors pour la période contemporaine, j'ai interrogé 6 artistes, Jacqueline Fabien, Ernest Breuler, Ricardo Osier-Lafontaine, Raymond Médélis, Chantal Charon et Bruno Pédurand. Alors pour Jacqueline Fabien, peindre, c'est essayer de matérialiser des images ou des sensations, c'est mettre sur une surface plane statique et en 2 dimensions, tout un monde en 3 dimensions qui bouge et qui bruisse. Son positionnement artistique, c'est essayer de peindre pas seulement ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent de l'atmosphère. C'est essayer de traduire une ambiance. C'est se maintenir au bord de l'abstraction sans jamais l'atteindre totalement. C'est se sortir de ses conditionnements picturaux et de ses harmonies colorées habituelles. C'est interroger les rapports de couleurs, la manière de rendre l'eau, le végétal, les galets, le sable et leurs zones de rencontre. Alors pour Ernest Breuler, peindre, c'est être dans la logique de la préhistoire, de ce geste inaugural de la naissance d'une civilisation. C'est tenter de saisir le réel, de donner un sens à ce qui nous entoure, de laisser une trace, d'atteindre l'immortalité. C'est surtout se libérer de la vision qu'il avait de la peinture, dit-il, et c'est donc porter un regard constant sur l'histoire des pratiques artistiques pour les dépasser et trouver le fondement original de son œuvre. C'est éviter le mimétisme et la répétition pour proposer quelque chose de nouveau. Alors, quels sont donc aujourd'hui les outils du peintre? Quand on évoque la peinture, on pense d'abord aux outils traditionnels du peintre, pinceau, brosse, couteau. Mais aujourd'hui, les plasticiens ne se contentent plus de ces instruments premiers ou de ces premiers instruments, comme vous voudrez. Leur réponse a été unanime. Tout peut devenir un outil du peintre. Et donc, pour Jacqueline Fabien, la main, les doigts, le couteau du plâtrier, la brosse à dents, le chiffon. Et il m'est arrivé, dit-elle, de fouetter la toile avec une branche. Alors cette remarque m'a fait penser à la performance de 2015 qui s'appelle « Whip It Good » de Janet Ehlers, qui utilise un fouet pour créer des toiles abstraites. Mais à l'évidence, ici, la fonction du fouet est plus symbolique que technique. Alors aujourd'hui, Jacqueline Fabien utilise la broderie, donc du fil, des aiguilles et comme matériaux, des perles pour réaliser ses tableaux. Avec le dos numéro 6, les perles cherchent à retranscrire la lumière et les reflets de l'eau. Les perles ne sont pas décoratives, mais elles ont une fonction picturale. Ce reflet pourrait être suggéré avec de la peinture, mais l'artiste a choisi de le traduire autrement. Avec le dos numéro 1, la broderie a pour objectif de retranscrire davantage la réalité, c'est-à-dire d'évoquer les volumes, les grains de beauté que l'on touche lorsque l'on caresse la peau. Voyons maintenant l'exemple de Médélis, qui lui affirme que la distanciation, l'exagération, l'abstraction, la déformation sont des enjeux esthétiques qu'il essaie d'inclure dans sa peinture. Sa peinture serait, dit-il, un espace plein de dramaturgie et oscillerait entre vérité, artifice, mythologie et frivolité. Alors pour peindre, Raymond Médélis a inventé et confectionné un outil adapté à l'effet recherché, et vous pouvez le voir ici au travail dans cette petite vidéo où il intervient avec un couteau, un outil traditionnel, mais aussi l'outil qu'il a inventé afin de créer toutes les volutes qui anime la surface de sa toile. Pour Chantal Charon, une éponge, un chiffon, ses doigts sont des outils. Elle utilise aussi du papier épais pour disperser la matière. Elle travaille sur la question de l'être avec un signe récurrent, celui de la silhouette humaine, qui emprunte des formats différents selon les séries. Certaines séries antérieures évoquaient l'écriture ou une partition musicale. Aujourd'hui, les silhouettes sont de plus en plus allongées, de plus en plus épurées, de plus en plus abstraites. Et alors, pour insérer et graver la ligne dans sa toile, elle emprunte un outil de sculpteur doté d'une pointe qui prélève donc de la matière pour laisser une trace. C'est aussi une technique qu'utilisait Raymond Médélis, comme vous le voyez dans ces deux exemples d'œuvres de 1993 et 1994. Il gravait également la toile, mais aujourd'hui cette pratique n'est plus autant présente dans les toiles actuelles. Alors, Chantal Charon utilise aussi la plume et l'encre sur certaines toiles. Elle dit « Je peins avec le dessin ». Elle évoque aussi la posture physique et mentale de l'artiste dans l'acte de peindre. Elle est accroupie au sol, en intimité avec le support, et utilise une gestuelle rapide. La pratique est donc hybride entre peinture, gravure et dessin. Pour Ricardo Gielafontaine, peindre, c'est agencer des formes sur un support avec des éléments liquides ou semi-liquides. Ricardo se positionne dans la lignée de Suzanne Césaire. Il prône la résistance à une vision exotique de la peinture caribéenne, ce qui explique le choix du noir et blanc. En 2016, les œuvres exposées à l'Atrium n'étaient pas réalisées au pinceau, mais au marqueur acrylique, à la limite du graphisme, points et lignes. Dans la série Le Réel, de la récente exposition Risette, qui a été présentée récemment à la Fondation Clément, les dégradés sont effectués au pinceau. On retrouve donc la fusion de la peinture et du dessin. Alors pour Ricardo, le dessin a d'abord une fonction préparatoire. Au quotidien, le dessin permet une expérimentation et une prise de risque et donc facilite ensuite une réalisation plus fluide sur la toile, mais il imprègne également la création artistique à mi-chemin entre peinture et graphisme. Alors, dans le cadre de cette réflexion sur l'évolution des gestes et des outils du plasticien, je vous montre un petit exemple de Ricardo au travail avec son feutre qui trace lignes et traits sur sa toile. Maintenant, nous allons parler de la démarche artistique plastique de Bruno Pédurand. Alors, de la peinture des années 90, dont vous avez ici trois exemples de peinture acrylique sur toile, aux installations et au remix, Bruno Pédurand examine différents modes de création, particulièrement ce qu'il appelle la customisation, c'est-à-dire le transfert et la superposition de signes d'univers culturels différents, comme des images publicitaires du magazine féminin Marie-Claire, des sceaux du Ghana, des croix chrétiennes, des croix égyptiennes, éthiopiennes ou des marques de produits coloniaux. Alors la dernière série, Egoun, prolonge en quelque sorte la série Parents, amis et alliés. C'est à la fois une réflexion sur le deuil, l'absence, l'archive et sur l'image, sa qualité, sa provenance, son poids, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ce qu'elle véhicule, son impact. Ces créations récentes se placent dans le droit fil de la production antérieure, dans la cohérence de la démarche artistique, car Bruno Pédurand a toujours traité de l'amnésie, de la mémoire, de l'archive, depuis l'amnésie de l'histoire coloniale jusqu'au statut des disparus anonymes de notre société. Son travail est ancré dans la réalité sociale antillaise. Il choisit en effet, en fonction de la qualité des contrastes de l'image, certains portraits de défunts de la rubrique nécrologique de France Antilles, renvoyant ainsi aux traditions mortuaires des Antilles. Avis d'obsèques radiodiffusés, religieusement écoutés deux fois par jour, rubrique nécrologique, veillée traditionnelle. Cette pratique prend le contre-pied de l'histoire de l'art occidental où le portrait représentait, dans le cadre d'une commande, le roi, le prince ou une personnalité importante. Bruno Pédurand sélectionne le visage de défunt qu'il ne connaît pas et qui n'occupe pas une place privilégiée dans la société. Il interroge ainsi le statut et l'identité des anonymes. Le processus est ritualisé et la durée de réalisation longue. C'est en quelque sorte un rituel honorifique et respectueux. Ce sont des égouns, en référence aux croyances béninoises et plus largement vaudous, c'est-à-dire des revenants, des personnes disparues qui reviennent lorsqu'elles sont convoquées lors d'une cérémonie spéciale. Pour la série Parents, amis et alliés, la photo est scannée, agrandie et tramée, puis reproduite à l'encre de Chine au petit point sur du plastique transparent. La série récente est réalisée au noir de fumée sur du plexiglas. Par prélèvement, à l'aide de pointes, Bruno crée des petits traits et des petits points, et en fonction de leur espacement et de leur quantité, il forme pour l'œil des zones plus ou moins foncées. Ainsi, Bruno Pédurand redessine, modèle le visage, ses ombres et ses zones claires. C'est ce qu'on appelle le gris optique. Mais la matière, le noir de fumée, est volatile. Sa fragilité renvoie à la fragilité de la vie. Un simple battement d'aile de papillon peut l'effacer. C'est la matière de l'absence, dirait Pratique Chamoiseau. Et pour Gilles Deleuze, cela ajoute presque de la beauté aux choses, qu'elles soient passagères. L'antagonisme entre le temps de réalisation très long et la disparition potentielle instantanée s'inscrit dans la démarche artistique. Et ceci place Pédurand dans une lignée conceptuelle et a priori dans une certaine mesure hors des circuits marchands, encore que le portrait puisse être si nécessaire fixé à l'aide de résine. Le noir de fumée apporte les aplats de noir, alors que la création des zones sombres et claires, par prélèvement, se rapproche du dessin ou de la gravure. Vous allez maintenant voir un exemple de Bruno Pédurand au travail. D'abord, comment il installe les aplats noirs à l'aide d'une bougie. Puis, ensuite, comment cette plaque de plexiglas est renversée sur une boîte lumineuse et travaillée avec des petites pointes pour effectuer des prélèvements. Maintenant, pour Ernest Breuler, lui, il dit également que tout peut devenir un outil du peintre. Un doigt, un bout de bâton, un morceau de chiffon, la souris d'ordinateur. Et dans Corps d'artiste, dont vous avez ici une image, c'est une installation en film radiographique, ce sont des morceaux de carton qui vont amener la couleur. Alors même lorsqu'il travaille à partir de films radiographiques, Ernest Breuler considère qu'il a toujours opéré comme un peintre. Et d'ailleurs, il cite l'exemple de Matisse et je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous, comme lui, vous assimileriez les collages de Matisse à de la peinture? Alors, à la fin de sa vie, affaibli, Matisse a développé cette technique des papiers découpés pour continuer à créer. La première étape du travail consiste à peindre en couleurs vives de grandes planches de papier. Cette tâche est réalisée avec l'aide d'un assistant. Ensuite, Matisse découpe ses formes dans le papier à l'aide de ciseaux. Et la troisième phase, toujours soutenue par un assistant, c'est leur agencement. Ce sont de très grandes créations, très larges. Comme vous le voyez, Matisse retrouve la fluidité du pinceau avec de simples ciseaux. Sa maîtrise du découpage lui permet de contrôler à nouveau ses représentations picturales. C'est un autre procédé pour amener la couleur qui semble malgré tout correspondre à la définition de Vasari. Une peinture est une surface plane recouverte de zones colorées. Alors, chez Ernest Breuler, la peinture ne disparaît jamais totalement et on la retrouve même ténue dans les dernières créations de 2017-2018, les boîtes qui s'appellent Paysages célestes. Alors, qu'apporte ce va-et-vient entre différentes pratiques artistiques? Plusieurs plasticiens alternent ces pratiques, comme nous l'avons vu, et nous nous demanderons maintenant ce que peut leur apporter ce va-et-vient entre peinture et autres formes, installations, objets, photographies. Ernest Breuler, alors qu'il maîtrisait parfaitement l'art de peindre, comme le montrent les quatre séries des années 89-92, a recherché d'autres techniques de création avec le film radiographique ou les objets. Pourquoi? Que recherchait-il? Il a abandonné donc la peinture momentanément en 1992 après cette série d'œuvres. Donc, par exemple, la série Mythologie de la Lune en 1989, qui est une acrylique sur toile, et dont la problématique était la représentation du corps dans l'espace et la représentation de la chair. Une seconde série, série grise, où la problématique reste la représentation du corps dans l'espace, mais avec un procédé de raccourci. La série blanche évoque plutôt la disparition, la dissolution du corps après la mort. Et enfin, la série des Christs, dernière série picturale de cette époque, la représentation de la chair martyrisée. Alors, donc, pour Ernest Breuler, changer de voie lui permettait de poursuivre un questionnement amorcé à travers la peinture, celui du traitement de l'espace. Il se posait la question suivante: comment dépasser la notion de perspective, la notion du point de fuite, comment traduire l'espace et la profondeur? Alors l'alternance d'opacité et de transparence du film radiographique va le lui permettre. Et donc passer du tableau à l'installation, créer à partir de nouveaux matériaux, l'aide donc à avancer dans son questionnement plastique. Jacqueline Fabien perçoit également une différence. Le rapport du spectateur à un tableau relève de la contemplation, dit-elle. Avec l'installation, le spectateur est impliqué davantage et on le plonge dans une ambiance, il pénètre dans l'installation. Du côté de l'artiste, l'installation s'est excitante intellectuellement, car il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas du même ordre, dont on doit imaginer l'assemblage, alors que l'excitation est plutôt émotionnelle dans la peinture. Pour Chantal Charon, comme pour Breuler, Fabien, quand on passe d'une pratique à l'autre, la pratique privilégiée se trouve nourrie par la pratique alternative. Alors, nous avons vu que Breuler, Fabien, Médélis, Pédurand expérimentent plusieurs formes artistiques, dessins, installations, peintures, vidéos. Charon et Ozier Lafontaine se concentrent davantage sur un va-et-vient entre peinture et dessin. Et leur pratique du dessin enrichit leur pratique picturale. Ernest Breuler a aussi développé, depuis quelques années, une pratique active du dessin, avec pour objectif de bousculer, de déplacer la frontière entre dessin et peinture, de percevoir comment le dessin bascule dans la peinture. Alors, le basculement ne peut se concevoir que si une frontière existe et que si elle est visible. Les deux pratiques, dessin et peinture, sont nommées et chacune a son autonomie et sa capacité à saisir le réel. Le dessin relève de la graphie, tandis que la peinture obéit à la couleur. Montrer les limites du dessin, c'est pouvoir rester sur la crête de la graphie en apportant de la couleur et voir jusqu'à quelle limite on peut aller. Il considère que son travail de dessin est une expérimentation susceptible de faire bouger une ligne. Pour Ernest Breuler, il ne s'agit pas d'une définition qui se voudrait théorique, mais avant tout d'une expérimentation susceptible d'engager une réflexion personnelle. Donc, nous l'avons vu en partie, la création picturale a donc mille visages. Aujourd'hui, les frontières entre les genres, les pratiques sont abolies. Avec ces quelques exemples, nous avons vu que l'expérimentation, l'invention, l'originalité sont au rendez-vous et que les gestes et les outils sont multiples et parfois surprenants. La peinture a longtemps été la pratique dominante aux côtés de la sculpture et l'on a donc assimilé peinture et art. Aujourd'hui, avec la multiplication des formes artistiques, elle n'a plus la première place, ce qui ne signifie nullement qu'elle meurt ou disparaît. Elle se positionne simplement différemment. La peinture reste présente. Ce qui change, c'est le projet, c'est la démarche, c'est le propos de l'artiste. Et le médium reste toujours au service de son propos.